Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité métropolitaine. Les vacances de la Toussaint se terminent et avec elles, une exposition qui aura occupé pendant 8 mois le vaste espace du Quai des Savoirs. L'exposition Feu, méga feu, nous vous l'avions présentée dans cette émission au moment de son ouverture l'hiver dernier. Alors qu'elle arrive donc à son terme, a lieu en ce moment au même endroit, Lumière sur le quai, une manifestation ludique et festive qu'organise chaque année l'équipe du Quai des Savoirs lors des vacances d'automne. L'exposition touchant à sa fin, c'est le moment d'en faire un premier bilan et de revenir sur la curiosité et l'intérêt qu'elle a suscité auprès du public. Les derniers jours de Lumière sur le quai nous donnent aussi l'occasion de rappeler ce que cet événement propose aux visiteurs d'ici sa clôture dimanche. Nous allons aussi nous projeter sur l'année 2024 et sur le thème de la prochaine grande exposition au Quai des Savoirs. Voilà donc le sommaire de cette émission entièrement dédiée à la culture scientifique et technique. Et pour revenir sur l'exposition Feu Méga Feu et vous présenter la programmation de Lumière sur le quai, je suis très heureux d'accueillir le directeur du Quai des Savoirs, Laurent Chicoineau, à qui je souhaite aussi la bienvenue. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur Radio Présence dans ce studio où je vous avais déjà reçu en février dernier.
Bonjour.
Avant de faire un premier bilan d'exposition 2023 avec vous, est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler ce qu'était la thématique feu et méga feu et les raisons pour lesquelles vous l'aviez choisie à l'époque ?
Alors cette exposition, comme son nom l'indique, parle du feu. À la base, c'est une exposition qui a été créée par la Cité des Sciences en 2018 à la suite d'un incendie malencontreux, évidemment, à la Cité des Sciences. Et là, l'équipe de la Cité des Sciences à Paris s'était dit « on n'a jamais parlé du feu finalement, on a été confrontés nous-mêmes à cet incendie et c'est peut-être le moment d'en parler ». Donc ils ont réalisé cette exposition qui nous parle du feu à la fois dans l'histoire des hommes et du feu, c'est-à-dire comment on a pu s'approprier le feu, ce qui a mis pas mal de temps quand même pour nos ancêtres. Ensuite, avec une partie évidemment, j'allais dire, scientifique, c'est-à-dire que le feu, qu'est-ce que c'est à la base ? C'est un phénomène de combustion et il a fallu là aussi plusieurs siècles pour comprendre cela et il a fallu attendre les chimistes et notamment le célèbre Lavoisier pour comprendre en fait ce phénomène de combustion, à partir duquel, une fois sa compréhension acquise, a pu se développer notre société industrielle d'aujourd'hui, puisque ça a permis le moteur à explosion et ça a permis la mécanisation, la motorisation d'un certain nombre de dispositifs et ce qui a permis aussi beaucoup l'expansion de la société industrielle. Et puis le troisième élément de cette exposition, c'est, puisque c'était à la suite d'un incendie à la Cité des Sciences, c'est en savoir plus, on va dire, sur les pompiers, sur les techniques des pompiers, sur les méthodes, les pratiques des pompiers. Et donc c'est une partie très intéressante qui a été réalisée avec la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris qui est intervenue justement à la Cité des Sciences. Et dans cette exposition, vous avez notamment une cuisine incendiée, qui est un des clous de cette expo. Une cuisine qui a été incendiée, alors, non pas accidentellement, mais volontairement pour les besoins de l'exposition. Et en fait, c'est un dispositif pédagogique, comme on dit, c'est-à-dire que ça permet d'enquêter sur place pour savoir d'où est venu le feu, dans une véritable cuisine, comme chez vous. Alors, je ne vais pas révéler d'où vient le feu, évidemment, puisqu'il vous reste encore quelques jours pour aller mener l'enquête. Mais c'est très intéressant parce que ça permet comme ça au public de se rendre compte des feux domestiques et de la manière dont un feu se développe, naît et se développe, et surtout de prendre conscience que dans le feu, ce qui est le plus dangereux, ce sont les fumées et pas les flammes, c'est-à-dire qu'il y a peu de flammes, il y a beaucoup de fumée. Alors évidemment, quand il y a des flammes, là c'est beaucoup trop tard, mais au début du feu, pendant très longtemps, le feu couve et on voit beaucoup de fumée et ces fumées sont toxiques et très chaudes et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc, voilà un peu le parcours de l'exposition. Et pour sa présentation à Toulouse, alors on l'a choisi parce que à la fois on préparait la venue du congrès national des sapeurs-pompiers à Toulouse en 2023, donc qui est un événement important pour notre métropole nationale, et aussi parce que ça nous donnait la possibilité de rebondir sur l'actualité des méga-feux notamment, puisque comme chacun le sait maintenant, hélas, en raison du changement climatique, on assiste chaque été à des incendies de forêts gigantesques, hors de contrôle, comme on dit, qui est la définition même de ces méga-feux, hors de contrôle, y compris pour les pompiers. Et c'est bien ça le problème, c'est que ces méga-feux, aujourd'hui, quand ils surviennent, on n'a pas d'autre possibilité que d'attendre qu'ils s'éteignent d'eux-mêmes, soit par la pluie, soit par un changement climatique, enfin un changement de la météo plutôt. Et puis évidemment, on a quand même des actions des pompiers pour préserver les habitations, les vies humaines, etc. Et donc on s'est dit, bah, c'est vraiment un sujet d'actualité, hein, lequel est savoir, c'est pas un musée, c'est un lieu où on parle d'aujourd'hui et de demain. Et donc on s'est dit, bah, c'est le moment de faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on sait finalement de ces méga-feux. Et là, nous avons mené notre enquête auprès de laboratoires de recherche et scientifiques toulousains, notamment Météo France, hein, le centre de recherche de Météo France, qui observe, qui analyse énormément, hein, tout ce qui se passe, bien sûr, en Occitanie, mais à l'échelle de la planète. Et donc, on a pu, comme ça, construire le scénario d'un film qui explique ce que sont ces méga-feux, comment on les définit, comment on les décrit, qu'est-ce qu'on peut faire contre, malgré tout. Alors, beaucoup en prévention, hein, et grâce à l'observation de notre planète par les satellites, justement, tout ce qu'on peut faire en prévention et un petit peu faire passer aussi le message que finalement ces méga-feux, c'est à la fois une conséquence du changement climatique, puisque comme les forêts sont de plus en plus sèches, hein, avec l'élévation des températures, malheureusement, bah, voilà, ça crée de la sécheresse. Une forêt très sèche, un enfant le comprend, hein, et, voilà, une allumette et puis, ou un mégot malencontreux, et puis voilà, le brasier prend. Et en même temps, c'est aussi un accélérateur de ce changement, parce que évidemment, quand il y a une combustion, on dégage du gaz à effet de serre, hein, du dioxyde de carbone, le CO2, le fameux gaz à effet de serre, et ce gaz à effet de serre, il est relargué de manière énorme à travers ces incendies gigantesques, et parfois, en l'espace de un mois d'incendie, ça va être l'équivalent qu'on va relarguer dans l'atmosphère de gaz à effet de serre d'une grande ville pendant toute l'année, par exemple. Et donc, ça vous donne un peu comme ça une idée. Alors, c'est un peu la même chose avec les volcans, hein. C'est des phénomènes naturels qui, finalement, accroissent aussi le changement climatique. Voilà, ça entretient le phénomène du changement climatique.
Eh bien, merci pour tous ces rappels très précis, ce tour d'horizon très complet de l'exposition Feu, méga feu. Nous allons faire dans quelques minutes avec vous un premier bilan de cette exposition. Ce sera après le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu. Pour commencer, une information destinée à ceux qui s'intéressent à l'ESS. Le mois de novembre est en effet consacré à l'économie sociale et solidaire dans la métropole.
En effet, Eric, avec 1800 emplois créés sur le territoire de la métropole depuis 2015, la filière connaît une forte dynamique et concentre au total plus de 36 000 salariés. La métropole aide de différentes manières la filière à se développer. Les services aux porteurs de projets et aux entreprises sont organisés selon deux programmes complémentaires, le parcours entreprise et l'animation d'un réseau d'acteurs autour d'un agenda collectif de lieux identifiés incontournables et de nombreuses initiatives. Toulouse Métropole propose aussi aux entrepreneurs un parcours complet qui correspond à chaque étape de la vie de l'entreprise. Ce dispositif s'appuie sur un collectif composé de partenaires de l'économie sociale et solidaire et accompagne en moyenne 250 projets par an. Les entrepreneurs et porteurs de projets bénéficient aussi d'un programme événementiel, de lieux emblématiques et des idées et des innovations.
Du nouveau concernant la troisième ligne de métro, le projet de ligne C vient d'être récompensé par une première certification.
Oui, fin octobre, Jean-Michel Latte, président de Tisséo Collectivité, Tisséo Ingénierie, a reçu pour l'opération ligne C du métro de Toulouse le certificat HQE, infrastructure durable, de Patrick Nossin, président de Certivea. Cette certification est une première en France pour un projet de conception et de réalisation d'une ligne de métro. La démarche de Tisséo s'inscrit autour de quatre engagements majeurs, la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et un management responsable. La démarche HQE, infrastructure durable, décline ces quatre engagements majeurs en 19 thématiques. La charte définit ensuite, pour chaque thème, les objectifs en termes de développement durable associés. Au total, 61 objectifs ont été définis pour la ligne C avec un plan de 200 actions qui seront suivies pendant les phases de réalisation et de mise en service.
Et puis une excellente nouvelle qui réjouira les mélomanes et rendra fiers tous les Toulousains. Toulouse a été désignée ville des musiques par l'UNESCO.
Oui, la ville rose est la deuxième ville française après Metz à être distinguée dans le domaine de la musique. Cette distinction va permettre à la ville de rayonner à travers le monde en engageant des coopérations internationales avec d'autres villes, de conforter son attractivité et d'accompagner le développement du secteur créatif et culturel local. La ville rose accueille des institutions ou des formations incontournables, dont l'Orchestre national du Capitole, mais aussi des salles publiques et privées comme le Métronome, le Bikini, le Zénith ou le Bijou, mais aussi de nombreux festivals reconnus comme Piano Jacobin, Rio Loco, les siestes électroniques et des lieux de formation comme le Conservatoire. De Claude Nougaro à Bertrand Chamaillou, en passant par Zebda, Cat & Trees, Jen, Big Flo et Oli ou encore Thibaut Garcia, Toulouse Accueil inspire de nombreux artistes. À noter que ce label est perpétuel et n'a donc pas de durée limitée dans le temps.
C'était le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Merci beaucoup Corinne. Alors Laurent Chicoineau, vous venez de l'écouter, voulait peut-être réagir à l'une des informations de ce flash, et je pense bien sûr à la troisième, l'obtention de ce label Ville des Musiques, donc attribué par l'UNESCO à Toulouse. Bon, même si ce n'est pas de la culture scientifique et technique, je pense qu'il est toujours intéressant, lorsqu'on dirige un équipement culturel dans une ville, que la ville en question obtienne une distinction internationale connue dans le monde entier.
Ah oui, complètement. Nous sommes très très contents pour nos collègues et très fiers pour Toulouse, très clairement. Et puis vous savez, il y a beaucoup de liens entre la musique et la science. On a des projets d'ailleurs en préparation sur ce sujet. Et c'est vrai que Toulouse, c'est une ville qui est très connue pour les musiques, toutes les musiques, comme ça vient d'être dit, et aussi pour la culture scientifique et les sciences. Et donc c'est les deux grands, on va dire, fers de lance culturels de notre métropole. Et c'est vrai qu'on est très très contents pour tout le monde de cette labellisation.
D'ailleurs, beaucoup de musiciens sont à la base des scientifiques.
Tout à fait.
Qui auraient pu faire des carrières scientifiques qui parfois mènent les deux de front. Voilà, donc merci beaucoup pour cette réaction. On va tout de suite revenir sur l'exposition Feu et Méga-feu et faire avec vous un premier bilan de cette grande exposition 2023 du Quai des Savoirs.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous, toujours en compagnie de Laurent Chicoineau, directeur du Quai des Savoirs. Donc, alors que l'exposition Feu, Méga-feu se termine, quel bilan pouvez-vous d'ores et déjà en tirer, et peut-être tout d'abord en termes de fréquentation?
Alors en termes de fréquentation, j'ai pas de chiffres à vous annoncer là parce que l'exposition n'est pas terminée. Hein. On termine ce dimanche 5 novembre. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que en termes de fréquentation, c'est une exposition qui a rencontré beaucoup de Toulousains et de Toulousaines, hein, très clairement, et puis aussi de tous leurs invités, puisqu'on a un public à la fois composé d'habitants de la métropole, mais aussi de touristes, de la famille, des habitants de la métropole. C'est ce qu'on voit. Hein. Pendant les vacances, beaucoup. Et puis cet été, on a eu le plaisir d'accueillir de nombreux touristes étrangers, notamment. Et nos expositions, il faut le rappeler, sont aussi accessibles en anglais et en espagnol. Donc pour nous, c'est un point d'honneur de pouvoir accueillir le plus possible de public. Alors on a eu, pour vous dire sincèrement, on a été un petit peu débordé par ce succès. Alors débordé, en tous les cas, on ne s'attendait pas à un tel succès. Débordé, non, parce qu'on a pu gérer tout ce public, bien sûr, dans des bonnes conditions. Mais on a été un peu surpris par ce succès. C'est vrai que le feu exerce une fascination sur chacun d'entre nous, qui est extrêmement forte, du plus petit au plus âgé, je dirais, puisque en fait c'est véritablement une exposition où toutes les familles trouvaient leur compte, hein, depuis les enfants jusqu'aux grands-parents, avec des histoires sur le feu, des explications du feu, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc ça permet de rentrer un petit peu dans les détails. C'est très quotidien, le feu, c'est quelque chose qu'on observe au quotidien, dans la cuisine, quand on fait la cuisine, forcément on est confronté au feu, mais aussi à travers le chauffage, à travers beaucoup de gestes quotidiens. Donc il y a une dimension domestique qui est très importante, qui fait que ça parle à tout le monde. Et puis, il y a une dimension aussi culturelle du feu qui est aussi importante. Le feu, c'est aussi des fêtes. Le feu, ça fait penser aussi à des événements heureux, à des événements festifs. Donc, il n'y a pas que les méga-feux et l'éco-anxiété. C'est un point qui est important. On y reviendra sûrement. Mais c'est un point qui est important puisque aujourd'hui, on vit une situation particulière sur cette planète. Comme de nombreuses époques, les humains vivaient une situation particulière. Je ne veux pas dramatiser non plus. Et donc, on voulait aussi vraiment faire un grand clin d'œil à cette partie conviviale du feu. Le feu, c'est la cheminée, c'est l'âtre, c'est le foyer autour duquel on vient se réchauffer.
C'est la chaleur, voilà.
Voilà, c'est ça. Et ça, cette question de la convivialité, alors notamment à Toulouse, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné.
Est-ce qu'il y a des questions qui revenaient souvent de la part des visiteurs par rapport à l'exposition elle-même, par rapport au feu en général ?
Bah, les questions qui viennent aux visiteurs sont beaucoup les questions liées à la prévention et aux pompiers, à la lutte contre le feu, hein, puisque c'est une exposition où il y a une grande partie qui est consacrée justement aux pompiers. Et ça, c'est très original, parce qu'en fait, on voit très rarement ça, finalement. Hein, là, on peut même essayer des costumes de pompiers, comprendre les différentes techniques d'attaque du feu, hein, avec les lances à eau, par exemple, où moi, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs manières d'attaquer le feu, plusieurs types de jets en fonction du moment où on intervient sur l'incendie. Donc voilà, il y a plein de techniques qui sont assez passionnante à découvrir. Et donc, il y avait pas mal de questions du public autour de ça. On a eu la chance d'avoir un très, très beau partenariat avec le SDIS-31. Bien sûr, en raison...
Ce sont les sapeurs-pompiers.
Voilà, hein. Les sapeurs-pompiers, exactement. En raison, bien sûr, du congrès, mais au-delà du congrès, toute l'année, on a pu travailler avec des gens vraiment formidables, à la fois sur l'aspect pédagogique. Hein, on a découvert aussi que les pompiers de Haute-Garonne organisent régulièrement des activités pédagogiques dans les écoles, dans les collèges. Et donc, on a fait des projets ensemble. On a accueilli pendant les vacances scolaires de février, par exemple, des pompiers qui sont venus faire des ateliers aussi auprès des enfants. Donc, des choses qui sont super intéressantes hein, à découvrir parce qu'on ne le voit pas tout le temps. Ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis, tout au long des mois, on a eu une vraie connivence hein, avec les sapeurs-pompiers jusqu'au congrès où on a pu organiser aussi des rencontres, des conférences.
Ça, c'était début octobre.
Voilà. Alors, ça, c'est le congrès. Au printemps, on a organisé des conférences sur, par exemple, comment les sapeurs-pompiers se conditionnent pour attaquer un feu parce que c'est pas simple, hein, tout ça. Donc, dans le cadre de la semaine du cerveau, qui est une semaine où on parle des sciences du cerveau, des neurosciences et de la compréhension de notre cerveau, on avait organisé cette rencontre avec des sapeurs-pompiers, avec des préparateurs aussi, des gens qui étudient le cerveau. Et donc on a discuté des enjeux du stress, parce que le stress, il y a une dimension positive qui mène à l'action, et puis à un moment, ça devient négatif, et voilà.
Bah, c'est le moment où on passe de la peur à la panique.
C'est ça.
C'est-à-dire quelque chose qu'on ne contrôle plus.
Voilà, et donc là, c'était très intéressant. On a ces conférences sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, si ça intéresse nos auditeurs. C'est vrai que voilà, ce sont des moments assez rares, des sujets auxquels on ne pense pas forcément quotidiennement et qu'on a eu la chance de pouvoir aborder avec les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne et puis avec aussi évidemment tous les partenaires scientifiques hein, de cette exposition.
C'est là qu'on comprend aussi à quel point l'expression « soldat du feu » est juste.
Ah oui, complètement. Il y a tout un vocabulaire guerrier, hein, on va dire, puisqu'on parle d'attaquer le feu. Et puis aussi, bon, ce qu'on sait tous, mais là, encore une fois, ça a été remis à l'honneur, c'est aussi la dimension collective, hein, bien sûr, des sapeurs-pompiers, parce que s'il y en a un qui est devant, les autres sont derrière, en
soutien. L'esprit de corps.
Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un esprit de corps qui est très, très important et qui est très fort hein, et qu'on partage et qu'on ressent dès qu'on commence à discuter avec eux et à faire des projets avec eux.
Et oui, tout ça est passionnant. Alors donc, l'exposition se termine avec l'événement Lumière sur le quai, en cours depuis le 20 octobre, qui se termine ce dimanche 5 novembre. Il faut qu'on rappelle d'abord ce qu'est ce festival hein, qui existe depuis la création du Quai des Savoirs.
Oui, complètement. En fait, c'était l'idée même de, avant l'ouverture du Quai des Savoirs, de faire ce festival pour montrer un petit peu le projet, lever le voile, on va dire, sur le projet, puisque la première édition, le bâtiment il n'était pas encore accessible au public, mais il y avait des petits trous de serrure qu'on avait mis sur les fenêtres pour regarder ce qui allait se passer à l'intérieur. Donc, effectivement, ça a été conçu comme un festival pour mettre en lumière le Quai des Savoirs. Et puis, aujourd'hui, que le quai est ouvert maintenant depuis 2016, hein, donc ça fait 7 ans. Le festival a évolué tranquillement pour devenir un festival de clôture de la grande exposition, donc avec un thème qui rebondit sur la grande exposition, d'où le thème de cette année, hein, jouer avec le feu, avec un peu de malice, hein, puisque jouer avec le feu, c'est à la fois au premier degré les jongleurs de feu, les cracheurs de feu, des spectacles qu'on a eu le premier week-end notamment, hein, qui étaient assez chouettes à voir. Et puis jouer avec le feu au sens figuré, c'est aussi prendre des risques, et prendre des risques, ça peut être très positif, comme ça peut aussi avoir des conséquences. Et ensuite, il faut gérer ces conséquences. Et aujourd'hui, c'est vrai que la situation dans laquelle on est, qu'on qualifie d'anthropocène, hein, c'est-à-dire ce moment où l'espèce humaine intervient sur la géologie même de la planète, avec ce changement climatique, avec la fonte des glaces, avec un certain nombre d'événements qui sont lancés, et c'est aussi une conséquence de certaines actions que nous avons entreprises. Et donc, voilà, la question, c'est est-ce qu'on a joué avec le feu ? Enfin, on n'a pas non plus trop philosophé autour de cette question, puisque aujourd'hui, la situation, elle est là, il faut gérer, et c'est aussi se projeter vers un avenir, et un avenir positif, un avenir désirable plutôt que se lamenter, on va dire, d'une situation qui, bien sûr, est inquiétante, mais face à laquelle il y a un certain nombre de solutions à prendre.
Alors, c'est ce que vous avez appelé l'espoir climatique, parce que j'ai vu que cette thématique joue avec le feu, donc en articulation avec l'exposition Feu, Méga Feu, veut renouer avec l'espoir climatique. C'est-à-dire
bah, l'espoir climatique, c'est justement de lutter contre l'éco-anxiété, hein, puisqu'on parle de alors c'est pas le désespoir, mais en tous les cas l'inquiétude qui naît face à cette réaction et qui touche de nombreux jeunes, mais pas que. Hein, c'est bien normal, puisque c'est une forme de prise de conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Donc cette éco-anxiété, c'est comme on parlait tout à l'heure par rapport au feu et par rapport à la peur. C'est-à-dire que la peur, elle a des vertus, puisqu'elle va permettre de prendre conscience, elle va permettre peut-être d'éviter de refaire des bêtises, elle va permettre de se protéger. Hein, donc la peur, elle a une vertu très positive. Et puis, à partir d'un certain moment, quand effectivement ça devient de la panique ou de la terreur, ça va devenir quelque chose qui va freiner l'action, qui va...
qui va nous plonger dans un état de sidération où justement on n'agit plus.
Exactement, et qui va nous empêcher de raisonner de manière peut-être rationnelle. Et donc, l'idée d'essayer de renouer avec l'espoir climatique, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, on est conscient de la situation, et nous, au Quai des Savoirs, comme dans toutes les institutions de culture scientifique à Toulouse et dans toute la France... Vraiment, on éduque à ce changement climatique, c'est-à-dire qu'on explique aux gens pourquoi on est dans cette situation, comment on observe cette situation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est sûr de cette situation. Hein, ça, il faut quand même le rappeler, qu'il y a des chercheurs du monde entier à travers ce qu'on appelle le GIEC, ce groupement international de chercheurs sur le changement climatique, qui discutent, qui ont des controverses entre eux, qui ne sont pas tous d'accord, ça, il faut le savoir aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions au sein de la recherche, il n'y a pas du tout d'unanimisme comme ça, il n'y a pas un chef qui dit c'est comme ça et tout le monde se plie. Non, au contraire. Les chercheurs sont des gens qui sont très critiques. Donc, à partir du moment où ils sont d'accord pour dire quelque chose, c'est qu'il faut l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a quand même un consensus qui se construit dans un esprit critique très important. Hein, dans le domaine scientifique, ça, il faut toujours le rappeler. Et donc, ces conséquences du GIEC et les scénarios auxquels on peut s'attendre, et ces scénarios, ils ne sont pas écrits. Hein, c'est-à-dire que c'est des scénarios qu'on peut encore faire bouger. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'espoir climatique. C'est-à-dire que si on prend conscience de ces scénarios et qu'on essaye de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, de ne pas basculer dans le scénario catastrophe, hein, qui est le plus 4 degrés à la fin du siècle, où là, la planète sera quand même largement invivable pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Si on reste à 1,5, voire 2 degrés d'augmentation, là, on peut encore maîtriser les choses. Et pour nos enfants, pour les générations futures, on leur laisse une Terre qui n'est pas trop dégradée quand même.
Il y avait une nouveauté cette année, à Lumière sur le Quai, c'est le premier forum des futurs désirables. Alors voilà encore une expression qui mérite d'être un petit peu expliquée. De quoi s'agit-il, les futurs désirables?
Alors les futurs désirables, déjà il y a deux choses. Il y a l'idée que c'est des futurs, parce qu'on parle toujours du futur. Mais en fait on oublie qu'il y en a plusieurs, c'est-à-dire que le futur il n'est pas écrit. Alors bien sûr on peut l'écrire, il y a des auteurs de science-fiction, il y a plein de gens qui écrivent des futurs. Mais en fait moi j'en parle souvent au pluriel, parce que le futur tant qu'il n'advient pas, tant qu'il se transforme pas en présent, il est pluriel. Même s'il y en a qui ont beaucoup plus de chances d'advenir que d'autres. Hein. Après, on ne va pas faire des probabilités ici, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir cette idée qu'il y a des possibles, il y a des futurs. À partir du moment où on raisonne, on ouvre notre esprit comme ça, en se disant bah, « il y a des possibilités, ce n'est pas fichu, il n'y a pas qu'une seule voie, il y a plusieurs voies ». Donc ça, c'est déjà un point qui nous paraît très important auquel est savoir. Et puis, des futurs désirables, oui, parce qu'il y a beaucoup de futurs qui ne sont pas désirables, en fait.
Quoi qu'on puisse dire.
Voilà, et donc ceux-là, peut-être qu'on pourrait les éviter, on peut les éviter même, c'est certain, à partir le moment où on se projette dans d'autres futurs, on imagine d'autres choses. Parce que souvent, on oublie que les choses se font aussi parce qu'on est capable de les imaginer. Il y a un grand mouvement dans la culture scientifique, dans le monde de la recherche scientifique aussi, et dans le monde de la création artistique, là, en ce début de 21e siècle, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'un n'est pas opposé à l'autre, hein, c'est-à-dire que l'imaginaire n'est pas opposé à la raison, parce que peut-être qu'à un moment donné, on a cru ça. Aujourd'hui, on est assez conscient que non. Les neurosciences aussi ont apporté leur pierre à l'édifice. Hein. Par exemple, on sait qu'on apprend mieux, les élèves, les enfants apprennent mieux des choses s'ils ressentent des émotions en même temps. Donc c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Et si par exemple on a une émotion négative, ça va être très difficile d'apprendre sa leçon d'histoire ou de mathématiques ou de français. Alors que si on a une émotion positive en même temps, c'est plus simple. C'est des choses qu'on va retenir mieux. Donc on ne généralise pas non plus à partir de cela, mais c'est important de faire ce lien entre l'imaginaire, le cerveau gauche, le cerveau droit, hein, comme on dit habituellement. C'est-à-dire que, voilà, entre la raison et la passion, alors évidemment, il ne faut pas basculer dans une passion excessive, mais le poids de l'imaginaire, il est très important. Et le poids de se projeter dans un futur qu'on imagine autrement, par exemple, voilà, comment pourra-t-on vivre dans des villes où il n'y a plus de voitures? Comment pourra-t-on vivre avec des modes de circulation qui seraient différents? Est-ce que, par exemple, le futur, c'est encore plus d'avions tout le temps? Ou alors, c'est autrement l'avion, par exemple? exemple. C'est des choses comme ça qu'on peut se permettre d'imaginer. C'est aussi le rapport au numérique. Est-ce que c'est tout le temps plus de téléphones, plus de sites internet, plus de Netflix, etc. Ou alors, est-ce qu'on le réserve à un certain usage et puis on fait autre chose à côté? On parle d'intelligence artificielle, bah, c'est pareil. Est-ce qu'on va en mettre partout? Alors non, on va en conserver. Voilà. Donc, on a un peu cette idée de futur désirable. Comment on va se projeter dans l'avenir?
On va revenir au sujet de l'intelligence artificielle, mais juste pour terminer sur Lumière sur le quai. Donc, c'est le week-end de clôture. Oui. Là, c'est samedi et dimanche, en espérant que le temps permettra de faire ce qui est prévu à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Donc, samedi et dimanche, il y a notamment des choses au Jardin Royal.
Exactement. On prévoit un grand spectacle en nocturne avec la compagnie Carabosse, une mise en feu des installations de feu au Jardin Royal. Donc, ça, c'est vendredi soir. Donc, demain soir et puis samedi soir. On espère qu'on pourra tenir, évidemment, que la météo soit clémente. Alors, je renvoie tout le monde à nos réseaux sociaux, sites internet. Voilà, on peut communiquer en temps réel pour savoir si c'est maintenu,
si c'est maintenu ou pas.
Exactement. Oui. Mais c'est une installation, alors on aimerait absolument la maintenir. C'est une installation assez sympa qui est sur le feu justement réconfortant, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas le feu tonitruant, le feu qui effraie, le feu à la Mad Max, si vous voulez. C'est le feu plutôt réconfortant. La compagnie Carabosse, c'est une compagnie d'artistes qui travaille le feu de manière extrêmement poétique, extrêmement belle,
je pourrais dire. Onirique aussi.
Voilà, onirique. Et donc, on va proposer au public une déambulation dans le Jardin Royal, qui est un magnifique jardin, en face du Calais Savoir, avec une mise en lumière à travers des brasiers, des sources de feu qui, en plus de ça, je rassure tout le monde, ne sont pas du tout dangereuses. Tout est sous contrôle, et y compris pour la nature, la végétation, puisqu'il y a des arbres magnifiques dans ce jardin.
Bien sûr, il faut faire très attention.
Exactement, il y a des arbres splendides et on entend bien les conserver.
On dira que c'est une rêverie incandescente. Alors, c'est gratuit, il faut préciser que toutes les propositions de Lumière sur le quai sont gratuites. On peut y aller à partir de quel âge, pour ceux qui vont y aller avec les enfants?
Alors, on peut y aller vraiment à partir de, j'allais dire, 6 ans, mais même avant, puisque le Quai des Petits, qui est bien connu au Quai des Savoirs, accueille les enfants à partir de 2 ans. Et ce week-end, tout sera gratuit, effectivement. On a aussi installé une grande tente sur les allées Jules-Guez, avec des ateliers pour les enfants, spécifiquement, autour du feu, autour de techniques aussi numériques, scientifiques. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez originales. On va proposer un photomaton. Donc, le photomaton, vous allez pouvoir vous faire tirer le portrait, et avec une intelligence artificielle, enfin, un algorithme qu'on a développé spécialement, vous allez pouvoir vous voir en être de feu. Donc, c'est assez amusant. Voilà, donc à partir de 6 ans, 8 ans, là, pour les enfants, il n'y a pas de problème. Et même plus petit, il y aura le Quai des Petits.
Voilà donc pour la fin de Lumière sur le quai 2023 et pour la fin de la grande exposition 2023. Mais alors 2024, c'est demain, on va y être très rapidement. Quelle va être la thématique de la grande exposition 2024 et quand va-t-elle avoir lieu?
Alors, on va ouvrir cette nouvelle grande expo le 2 février 2024 sur la thématique de l'intelligence artificielle, justement, puisque c'est un sujet effectivement qui est à la une de plus en plus, dont on parle partout maintenant. Alors, c'est un projet qu'on a démarré il y a 3 ans maintenant, parce que pour faire une grande exposition, qu'il y a des savoirs, c'est un
très
bon
longtemps.
Voilà, c'est long. Alors, on en parlait un tout petit peu moins, mais évidemment, dans le monde scientifique et surtout à Toulouse. Vous savez qu'à Toulouse, on a la chance d'avoir l'Institut ANITI, qui est un des 4 grands instituts français sur l'intelligence artificielle, donc qui est porté par l'Université de Toulouse et tous les organismes de recherche toulousains et les industriels de la place toulousaine. Et donc, on est en partenariat avec ce grand centre de recherche local, mais aussi avec le CNRS et l'INRIA. Et puis, c'est une exposition qu'on a la chance de coproduire avec nos amis de la Cité des Sciences à Paris. Mais cette fois-ci, je dirais, c'est le match retour, puisque pour l'Expo Feu, c'est eux qui ont conçu l'Expo. Pour l'Expo Intelligence Artificielle, c'est nous, Toulouse, Quai des Savoirs, qui concevons l'Expo, qui sera donc d'abord présentée à Toulouse, et puis ensuite à Paris, à la Cité des Sciences, en 2025.
Eh bien, nous allons conclure ce numéro sur ces premières informations concernant la grande exposition 2024 du Quai des Savoirs, consacrée donc à l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit. Merci beaucoup, Laurent Chicoineau, d'avoir été l'invité de cette émission. Je rappelle que Lumière sur le Quai se poursuit jusqu'à dimanche. Pour connaître les horaires d'ouverture et la programmation, vous pouvez vous renseigner sur tout ce que propose le Quai des Savoirs au public, de manière générale d'ailleurs, et je vous invite pour cela à consulter le site www.quaidessavoirs.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.